Radio Okapi, Okapi, à vous démo.
Sur 92,9.
Okapi.
Au Nord Kivu, plus d'une vingtaine de chefs coutumiers venus du Sud Kivu, du Maniema et du Nord Kivu se sont réunis la semaine dernière dans la ville de Butembo. Une rencontre avec comme objectif la mise en place des mesures efficaces pour lutter contre la déforestation ou les phénomènes de régression des surfaces des forêts. Une situation qualifiée d'alarmante par certains observateurs, notamment en ce qui concerne les parcs nationaux et les réserves de gorilles de Taïna. Nous avons en ligne Étienne Moïndo. Étienne, bonjour.
Bonjour JR.
Alors l'atelier sur la déforestation, les changements climatiques et la conservation de la nature parle s'est achevé quand même, disons, sous une bonne note, j'espère.
Oui, JR, bien c'est vrai que le secteur de Butembo-Lubero est victime de la déforestation et donc de vastes contrées dans les territoires de Lubero, notamment à Bunyantenge, Kasuo et le long de la route Butembo-Kanyabayonga ont été déboisées pour devenir des fermes. Les arbres sont coupés anarchiquement le long de routes de dessert agricoles, tel est le cas sur la route Luofu, Kasikimboisignois, et les auteurs sont non seulement des commerçants qui achètent à vil prix des terres ou des arbres aux chefs terriens avec la complicité des autorités. Il faut dire que les aires protégées ou censées l'être ne sont pas épargnées non plus par les phénomènes, comme le témoigne ici Pierre Kakou, le coordonnateur de la réserve des gorilles de Taïna.
Effectivement, la déforestation a un impact très négatif sur toutes les réserves, les parcs nationaux et aussi la réserve des gorilles de Taïna, parce que cela provoque la fuite des espèces que nous protégeons, les espèces animales. Ça détruit aussi les espèces ligneuses que nous sommes censés protéger. Et alors quand les animaux sont ainsi perturbés, nous avons le problème, par exemple, d'habituer les gorilles, parce que nous avons la mission de les habituer à la présence humaine et aussi contribuer à l'écotourisme. Mais aussi, comme vous le savez, la déforestation provoque le changement climatique et ainsi les espèces qui ne seront pas habituées à ce changement vont pouvoir mourir ou disparaître pour de bon.
Alors Étienne, quelles sont les conséquences de la coupe des bois dans ce secteur de Butembo-Lubero?
Oui, plusieurs, en fait, les participants à l'atelier sur la déforestation ont reconnu que la coupe de bois a une influence sur la pluviométrie et donc un impact sur le changement climatique. Et au mois de janvier, par exemple, c'était la saison sèche, c'est la saison sèche normalement dans le secteur de Butembo-Lubero. Et donc, disent les paysans, les changements de saison ne leur permettent plus de savoir quand est-ce qu'il faut planter, par exemple, pour avoir une meilleure récolte, car, disent-ils, la production n'est pas seulement fonction des méthodes ou des techniques agricoles, mais aussi fonction des aléas climatiques.
Alors, que doit faire l'État pour lutter contre la déforestation dans cette partie de la province du Nord Kivu?
Oui, les participants à l'atelier sur la déforestation ont émis un certain nombre de recommandations, notamment que le gouvernement limite l'octroi des licences d'exploitation de la forêt, que le gouvernement adopte une politique courageuse de reboisement à laquelle seront soumis tous les exploitants de bois à travers le pays en général et le Nord Kivu en particulier, que le principe du pollueur paye soit appliqué intégralement pour que le gouvernement congolais, les entreprises, même les individus accèdent facilement ou effectivement aux fonds et aux autres crédits destinés au reboisement et que la population soit davantage sensibilisée et formée sur les bienfaits de la conservation de la nature en général et des forêts en particulier. À ce sujet, nous pouvons, et je vous prie encore une fois d'écouter Pierre Kakou, le coordonnateur de la RGT.
La population ou les habitants de la province de l'Est voudraient voir le gouvernement rapidement procéder ou inciter le Parlement pour la ratification de la loi sur la conservation de la nature. Ça, c'est très capital parce que nous avons le gouvernement qui a accepté qu'il y ait des réserves naturelles gérées par les communautés, mais il n'y a pas encore une loi ratifiée pour ce cas. Nous voulons aussi que le gouvernement puisse appuyer les populations locales en leur amenant des projets de développement, promouvoir l'agroforesterie par exemple, et implanter des microcentrales, parce que les microcentrales diminuent la dépendance totale des populations en énergie de bois.
Voilà, alors nous avons déjà en ligne notre invité, José Ndundu Bononge, ministre de l'Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme, pour en parler. Excellence, vous êtes en ligne, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur le journaliste.
Alors, juste pour dire merci à notre confrère qui a réalisé cet élément. Étienne Moïndo, vous êtes encore avec nous? Voilà, Étienne vient de se séparer de nous, donc on n'a plus, il n'est plus en ligne. Nous allons retrouver donc notre invité, José Ndundu Bononge. Nous rappelons qu'il est ministre de l'Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme. Vous avez suivi le point que venait de nous faire notre confrère, Étienne Moïndo de Boutembo. Alors, quelle est votre réaction? Parce que là, je prends le dernier intervenant qui a parlé de la ratification sur la ratification d'une loi sur la conservation de la nature qui traîne ou qui n'arrive toujours pas, monsieur le ministre.
Oui, non, d'abord, je voulais signaler que j'ai suivi très partiellement l'intervention de mes prédécesseurs, puisque je viens seulement d'entrer en ligne. Mais je voulais dire que l'action contre le déboisement se fait sur plusieurs niveaux. Vous insistez, vous venez de dire, sur le plan légal. Je peux vous dire qu'au moment où nous parlons, il y a deux projets de loi qui sont préparés par le gouvernement et qui sont à l'Assemblée nationale. La première, c'est la loi cadre sur la protection et la gestion de l'environnement. C'est donc un vide juridique important qui va être comblé après l'analyse de ce projet de loi. Et puis la loi sur la conservation de la nature, donc le projet de loi sur la conservation de la nature. Pour la première fois, il y aura donc un arsenal juridique qui permettra au gouvernement d'agir. La deuxième chose que je vais vous dire, c'est qu'il faut aller aux causes profondes de ce déboisement. En réalité, la cause profonde et essentielle, c'est la recherche de l'énergie par les populations, parce qu'il faut que certaines mystifications soient prises en compte. Ce n'est pas l'exploitation industrielle qui détruit les forêts, elle intervient pour à peu près 20%, mais c'est surtout les besoins en termes d'énergie par la population qui concourent au déboisement et donc aux perturbations qui sont soulignées en termes de pluviométrie, donc de déséquilibre au niveau planétaire, des mécanismes qui font fonctionner la planète. Le déboisement entraîne qu'il y a moins de pluie et donc il y a les fleuves qui s'assèchent, les rivières qui s'assèchent. Chez nous, on a le cas de la rivière Oubangui, on a le cas du lac Tchad qui a perdu quasiment 80% de sa superficie, on a le lac Victoria qui commence maintenant à ressentir les premiers effets. Et puis il y a ce qui est devenu un problème, un combat mondial aujourd'hui, c'est la lutte contre le changement climatique. Vous savez que si la banquise, par exemple, devait disparaître, il y a 6 mètres d'eau au niveau de la mer qui viendrait, et on verrait certains pays disparaître. La configuration même de la RDC serait mise à rude épreuve. Donc là, c'est un combat qui dépasse les moyens du gouvernement, et donc nous devons veiller à ce qu'il y a des énergies de substitution. On a parlé tout à l'heure des microcentrales. Il y a aujourd'hui l'utilisation de l'énergie solaire à travers des techniques qui sont connues. Et tout cela implique des moyens que nous recherchons pour qu'un mécanisme fondamental de reboisement intervienne dans toutes les parties du pays. Et ces financements de seconde génération sont en cours de négociation, et vous savez qu'il y aura à la fin de cette année la conférence internationale de Copenhague. Si elle réussit, nous pourrons disposer de moyens qui permettront, un, de mettre en place les énergies de substitution dont j'ai parlé tout à l'heure, mais qui permettront également d'assurer le reboisement dans tout le territoire national. Voilà ce que je peux vous dire.
Oui, Excellence, aujourd'hui, pour certains observateurs, la sécurisation de l'ensemble du pays en général, et particulièrement la sécurité des aires protégées, constitue quand même un élément fondamental pour que aujourd'hui cette loi qui sera votée au Parlement puisse être réellement d'application et de ne souffrir d'aucune faille.
Oui, bien sûr, vous avez raison. Et pour cela, il ne faut pas seulement que l'arsenal juridique soit mis en place. C'est le cas actuellement. Et donc, nous attendons que l'Assemblée nationale délibère par rapport à ces deux projets de loi. Mais il y a aussi les réformes institutionnelles qui sont accomplies au niveau du ministère, au niveau de l'ICCN, au niveau des jardins botaniques, pour que nous puissions disposer d'outils et d'instruments performants. Ça, c'est un combat de quelques mois maintenant que nous allons poursuivre. Mais il y a aussi le renforcement même de l'État. Ce qui se passe à l'est du pays échappe au ministère de l'Environnement. Il y a des questions aujourd'hui de paix qui dépassent le cadre du ministère qui est le mien. Il faut aussi que nous comprenions que la paix permet la mise en place d'un État qui fonctionne normalement, qui peut contrôler la gestion forestière, parce qu'aujourd'hui à l'est du pays, il y a des exploitations forestières qui se font en dehors de toute règle, en dehors de tout contrôle de l'État. Donc c'est tout cet ensemble, ce train de mesures et le financement de seconde génération que nous attendons qui permettront de lutter efficacement et durablement contre les mécanismes que vous évoquez de déboisement, de perte des aires protégées, de sous-contrôle des aires protégées et des assassinats dans les parcs. Vous savez que nous avons perdu 200 éco-gardes depuis 10 ans, assassinés, lâchement assassinés. Tout cela démontre qu'il y a urgence à agir sur tous les terrains au niveau de l'environnement et de la conservation de la nature.
Oui, ben Excellence, qu'est-ce qui reste encore de nos aires protégées? Parce qu'à en croire les différents rapports des amis de la nature, on a l'impression qu'on est vraiment loin d'avoir dans les jours à venir encore des aires protégées très attrayantes.
Non, il ne faut pas être découragé, il faut savoir que c'est un combat de tous les jours, que nous menons ce combat, que nous avons été à la recherche de financement, et aujourd'hui le ministère, je l'ai dit, a 200 millions, ce sont des financements de première génération, nous allons devoir agir lourdement et massivement dans des aires protégées comme les Virunga, comme la réserve à Okapi, comme la Garamba où malheureusement il y a eu de très très grandes perturbations. Nous allons agir dans le parc de la Salonga, nous allons agir maintenant dans le Katanga, nous avons 200 millions de dollars pour une période de 2-3 ans, en attendant que les financements de deuxième génération, c'est-à-dire les crédits carbone, les mécanismes RED, les mécanismes de développement propre, qui sont des jargons un peu professionnels au niveau du ministère, soient mis en place pour que nous bénéficions de suffisamment de financements pour disposer d'abord de 15% d'aires protégées qui sont l'objectif légal, mais aussi pour en assurer la meilleure gestion. Par exemple, aujourd'hui, l'ICCN gère toute une série de parcs. L'ICCN va progressivement se déporter, avoir un rôle régalien, un rôle normatif, et nous allons recourir au secteur privé pour la gestion des aires protégées, pour la gestion des hôtels, de l'écotourisme, etc., etc. Donc il y a un changement fondamental qui vient, et il ne faut surtout pas qu'il y ait une sorte de pessimisme à l'africaine. Il faut que nous prenions les choses à bras le corps.
Oui, mais Excellence, oui,
que nous ayons les mesures à pouvoir corriger cela. Et
oui.
Moi, je ne suis pas désespéré, je suis pas inquiet. Je dis qu'il faut travailler pour améliorer la situation.
Oui, deux petites curiosités avant de clore cet entretien, Excellence. Quels sont les mécanismes mis en place pour une meilleure applicabilité de l'arsenal juridique que bénéficiera le secteur de l'environnement et conservation de la nature? Parce qu'on sait que dans bien des cas, il y a beaucoup de textes dans ce pays, mais ces textes souffrent toujours de l'applicabilité.
Oui, vous avez parfaitement raison. Et c'est pour ça que je vous ai dit que l'arsenal juridique doit aussi s'accompagner de la mise à niveau des instruments. Le ministère de l'Environnement ne peut pas rester comme il est aujourd'hui, c'est clair. J'ai déjà dit que nous allons revoir fondamentalement le fonctionnement de ce ministère. Il doit bénéficier de moyens. La communauté internationale ne peut pas tous les jours nous dire que nous devons protéger la forêt, que nous devons protéger l'eau, que nous devons protéger la biodiversité et ne pas nous donner les moyens de cette politique. Aujourd'hui, la forêt est un bien international, mais même si elle est congolaise, vous savez que Dieu nous a donné la deuxième forêt du monde, le deuxième poumon du monde se trouve en République démocratique du Congo. Il faut aussi que, puisque c'est le poumon du monde, il faut que le monde entier se coalise pour sauver cette forêt, pour nous permettre d'avoir les moyens. Donc il y a une action législative, elle est en cours, il y a une action de réforme. Vous savez que l'ICCN va complètement changer de figure. L'Institut des Jardins Botaniques va changer complètement de visage et de fonctionnement. Demain, vous verrez le secteur privé gérer les aires protégées, vous verrez le secteur privé prendre en charge les jardins zoologiques, les jardins botaniques. C'est une révolution dans le secteur de la conservation et de la forêt et de la gestion de la ressource eau. Vous voyez les actions internationales que nous poursuivons. Il y a une conférence internationale qui se tiendra l'année prochaine à Kinshasa pour justement définir les objectifs, le chronogramme, la méthodologie et les moyens qui nous permettront de gagner ce combat pour la préservation de la forêt, pour la préservation de la biodiversité et pour le maintien des équilibres en termes d'eau douce sur le territoire national. Donc il faut bien entendu s'inquiéter des perspectives actuelles. Vous devez savoir par exemple que nous avions 22 millions d'hectares de forêt concédés aux industries, nous avons ramené ça à 10 millions d'hectares, c'est une action considérable qui a été menée, donc il faut poursuivre ces actions, et je peux vous dire qu'au niveau du ministère ici, chacun et chacune est conscient que nous devons absolument poursuivre cette politique de réforme qui est en cours et qui porte ses premiers fruits.
José Ndundu Bonongue, nous rappelons que vous êtes ministre de l'Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme. Nous allons faire le suivi, et surtout en rapport avec cet atelier qui s'est tenu à Boutembo, qui a réuni autour des chefs coutumiers pour voir un peu cet aspect, cette problématique de la déforestation. Nous allons revenir avec vous très prochainement au cours de cette émission au Capi Action en long et en large pour voir un peu comment l'Assemblée va adopter ces projets de loi, cet arsenal juridique. Merci d'avoir été des nôtres et à la prochaine.
Et avant que je coupe avec vous, vous voyez ce genre d'initiative que comme l'atelier de Boutembo qui se multiplie sur le plan national, c'est signe, c'est preuve que toute la communauté nationale a pris en compte les dégradations que nous subissons et que nous devons maintenant relever la tête pour pouvoir avoir la maîtrise de l'action pour les réformes qui doivent intervenir pour la protection et la conservation de la nature. Donc ce sont des initiatives à encourager et le ministère le fait sans arrêt.
Merci Excellence, nous allons vous retrouver très prochainement. Nous disons également merci à Alain Goy qui a assuré la mise en onde de cette émission réalisée par Tati Mapoukou sous la coordination de Marcel Ngombombala. Quant à moi, je vous retrouve demain dans un autre numéro de Okapi Action. D'ici là, portez-vous bien.